La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Bonsoir et soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. J-5 avant les élections européennes, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de notre ultime épisode des Mardis de l'Europe. Pendant 2 mois, la rédaction de Radio Campus Paris s'est mobilisée pour recevoir pas moins de 11 listes dans un instant, qui seront représentées dans les urnes et qui pourront possiblement entrer au Parlement européen. À chacune des interviews que nous avons pu avoir, il y a eu des sujets aussi variés que l'écologie, la culture ou même la défense. Ce dernier Mardi de l'Europe sera pour nous l'heure du bilan, mais aussi une 12e et dernière liste va répondre à nos questions. Dans un très court instant, place à la jeunesse européenne sous le regard de Selma Labib, conductrice de bus et tête de liste du NPA révolutionnaire qui se présente à ce scrutin du 9 juin. Donc un entretien qui sera suivi d'une grande table ronde qui reviendra sur la campagne et sur les listes que nous avons reçues dans l'émission. Ce sera en compagnie d'une poignée de membres de la rédaction que je nommerai tout à l'heure et qui sont énormément investis dans ces Mardis de l'Europe, mais aussi au côté de Clara Bauer-Babeuf, journaliste aux médias Euractiv. En deuxième partie d'émission, c'est un zoom musical et un live. C'est avec Fabrice Tiercy qui recevra le groupe Sages comme des Sauvages. Une émission qui sera ponctuée d'une chronique, celle de José-Louis Gibault sur le retour, ou plutôt la revanche des empires sur la scène internationale. Il nous en dira plus vers 19h55. Vous avez le programme, on est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter ce dernier Mardi de l'Europe de la matinale de 19h.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Une question un peu floue mais qui mérite d'être posée. Quelle jeunesse pour l'Europe? C'est une question qu'on peut se poser sous plusieurs angles, hein, sur la stratégie, la politique de l'Union européenne en faveur de la jeunesse. Mais aussi, ça peut être une question un peu plus philosophique sur le sens de cette jeunesse, que ce soit sur ce qui la caractérise aujourd'hui ou ce vers quoi elle tend à l'avenir. On va déplier cette très large question avec vous, Selma Labib. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes, je le disais, conductrice de bus, je le cite parce que ça apparaît sur l'affiche de votre campagne, et vous êtes tête de liste du NPA révolutionnaire pour le scrutin du 9 juin. Avant de passer à l'interview de ce soir, je rappelle que le NPA révolutionnaire est ce qu'on appelle le NPAC, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, il y avait le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, et que au terme d'un congrès, il y a eu une scission entre le NPAB, qui est représenté par, entre autres, Philippe Poutou et Olivier Besancenot, qui cherchent une voie plus unitaire à gauche, et votre liste, le NPAC, donc le NPA révolutionnaire, qui est présente au scrutin du 9 juin. Ça, c'est juste pour préciser pour les auditeuristes qui nous écouteraient. Par souci d'équité aussi, Selma Labib, je vous précise que l'interview ne durera pas plus de 12 minutes, et que ça commence maintenant avec une première question qui peut être très sommaire, qui peut être très floue, mais qui semble nécessaire avec un mot aussi large que celui qui est le sujet de cette interview. Est-ce qu'il y a une jeunesse européenne pour vous?
Nous, on est internationalistes, donc j'aurais envie de vous dire il y a une jeunesse européenne, et puis surtout, il y a une jeunesse mondiale, en fait, parce que quand on regarde, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui sont posés à l'échelle mondiale. Je prendrai un exemple, celui de l'écologie. Qui pense qu'à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, on va répondre aux enjeux
climatiques, Selma Labib?
Là, parce que moi,
vous frisez un petit peu, Selma Labib.
Vous m'entendez pas?
On vous entend, mais vous frisez un tout petit peu.
Là, vous m'entendez?
Oui, là, on vous entend très bien. Vous parliez d'écologie comme sujet mondial.
Oui, je disais que l'écologie, c'est un sujet mondial, et c'est un sujet qui préoccupe la jeunesse, parce que évidemment, on se demande quel avenir nous réserve cette société capitaliste qui détruit la planète et qui détruit nos vies.
Justement, lors des dernières élections européennes, donc celle de 2019, Selma Labib, la jeunesse européenne était traversée particulièrement en 2019 par les enjeux climatiques. Il y avait les Fridays for Future, il y avait les mouvements climat, les marches pour le climat. Est-ce qu'il y a encore un espace pour l'enjeu climatique, justement, dans les mouvements de jeunesse? Parce que le NPR révolutionnaire, on le précise, est un mouvement, est un parti au plus proche des luttes des jeunes.
Bah bien sûr, plus que ça, nous, on pense que les choses, elles changeront pas par les institutions. Voilà, on pense pas que on postule pas à gérer les affaires de la bourgeoisie par le Parlement européen ou l'Assemblée nationale, mais on pense que les choses, elles peuvent changer par en bas et par la rue, et y compris pour ça. Et bon, vous me demandez s'il y a encore un espace, mais il y a pas si longtemps, il y avait quand même un certain nombre de jeunes devant le siège de Amundi pour l'Assemblée générale des actionnaires pour pointer du doigt les vrais responsables de ce massacre sur la planète, et pour pointer aussi du doigt Total qui par ailleurs est sur un projet en ce moment même de construction d'un oléoduc entre l'Ouganda et la Tanzanie qui va lui faire monter ses bénéfices encore de je ne sais combien de milliards d'euros, mais qui détruit la planète et qui détruit des vies aussi. C'est des centaines de milliers qui vont être contraints d'être déplacés. Donc voilà, c'est eux les vrais responsables, et nous on pense que pour faire pression sur des Total, des Bouygues, des assurances, des banques, c'est par la rue qu'on pourra le faire, et aussi par les travailleurs qui y travaillent dans ces entreprises-là.
Mais aussi, du coup, est-ce qu'il y a aussi, du coup, un espace par les urnes, puisque même si, je vous cite, vous ne voulez pas faire les affaires de la bourgeoisie en entrant au Parlement européen, vous êtes quand même tête de liste d'une liste pour les européennes. Est-ce que il y a quand même un projet pour la jeunesse européenne au sein du NPR révolutionnaire, ou alors votre candidature est juste une tribune pour se faire porte-parole de cette jeunesse révolutionnaire, ou en tout cas sensible aux mouvements sociaux d'aujourd'hui?
Non, mais bien sûr, vous avez raison de poser la question, mais c'est pas du tout une campagne de témoignage. Je dis que on n'attend rien du Parlement européen, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aurait rien à y faire, parce que comme vous l'avez dit vous-même, moi je suis conductrice de bus, mon colistier Gaël Quirante, il est postier, syndicaliste, on est des travailleurs et des travailleuses, et on pense qu'on a bien des choses à y faire. Et la première chose, c'est aller leur dire leur cas de vérité et aller dénoncer leurs petits arrangements, les grandes stratégies géopolitiques. Au Parlement européen, un exemple, hein, c'est à peu près 60 lobbyistes par député. Bon, ça nous donne une petite idée de qui dirige en fait cette société-là. Donc oui, on aurait à y faire. Oui, on pense qu'il y a un enjeu à envoyer des travailleurs et des travailleuses pour aller leur dire leur cas de vérité, parce qu'il n'y a aucune raison de les laisser gérer ces affaires-là sans qu'on puisse aller se faire le relais des luttes et leur dire leurs quatre vérités.
Et comment on se fait le relais des luttes des jeunes aujourd'hui, puisque je rappelle que le sujet de cette interview, c'est la jeunesse. Comment on peut se faire le relais des luttes de jeunesse, notamment des mouvements sociaux qu'il peut y avoir pour Gaza, notamment dans les grèves dans les facs, que ce soit à Sciences Po, mais aussi dans d'autres universités, dans d'autres écoles en Europe? Comment on se fait ce relais de ces mouvements sociaux-là, et comment on fait la jonction entre l'Europe, entre la question européenne et les mouvements de jeunesse qui existent aujourd'hui?
Vous avez raison, là, les jeunes,
quelle est la stratégie?
Ils ont beaucoup été... Comment?
Quelle est la stratégie du NPR révolutionnaire?
Les jeunes ont beaucoup été dans les mobilisations, et ceux du NPA aussi. On a une organisation de jeunesse, le nouveau parti anticapitaliste jeune révolutionnaire, qui a été de toutes les occupations, de toutes les manifestations en soutien à la Palestine. Le lien avec l'Europe, il est très simple. Hein. Les premiers complices de ce génocide, c'est Biden aux États-Unis, c'est Macron en France, c'est Scholz en Allemagne. Ils sont complices de ce génocide parce qu'ils envoient des armes, et parce qu'ici, ils répriment l'ensemble des manifestants qui se solidarisent avec la lutte du peuple palestinien. Et on a un camarade par ailleurs qui, lui, est quand même condamné et qui passera en procès le 14 juin prochain suite à une occupation à l'université. Donc on pense qu'ils ont raison de faire ça, les jeunes. Ils ont raison d'aller dans la rue et de dire que c'est comme ça qu'on mettra pression sur Macron. Et on pense d'ailleurs qu'il ne faudrait pas du tout que ce soit que les jeunes. Et on l'a vu là ces derniers temps, quand on est 10 000 à Paris en manifestation, c'est pas une préoccupation uniquement de la jeunesse, même si c'est la jeunesse qui a été en tête de ces mouvements, et on dit qu'il faut que ce soit rejoint beaucoup plus largement.
Vous faites référence, je rappelle évidemment, à la marche qui a eu lieu ce samedi à Paris, et toutes les marches qu'il a pu y avoir pour défendre les Palestiniens qui se font opprimer aujourd'hui par l'État d'Israël. Justement, cette coordination, parce que c'est aussi un mouvement de jeunesse à l'échelle européenne, il y a la donnée internationaliste du NPR révolutionnaire. Comment vous coordonnez entre les partis révolutionnaires européens aussi pour aider les mouvements de jeunesse à se coordonner? Je reviens, je me permets, à la question notamment des grèves étudiantes et des grèves dans les facs. Quand on est français, on a entendu parler que des grèves à Sciences Po et des grèves éventuellement dans d'autres universités, mais c'était quand même très franco-centré. En vérité, les blocages de facs, il y en a eu partout en Europe. Comment on fait le lien? Quel est le lien entre tous ces mouvements de jeunesse-là?
Bah écoutez, nous, on est en lien avec des organisations révolutionnaires dans d'autres pays, c'est vrai. Ça a été vrai déjà pour les Fridays for Future. Maintenant, les liens entre les jeunes... En fait, on pense que les étudiants, ils ont pas besoin... Enfin, ils ont besoin de personne pour s'organiser et qu'ils doivent justement s'organiser par eux-mêmes en assemblée générale, en comité de mobilisation et faire ces liens eux-mêmes parce que bah, c'est eux qui sont en train d'organiser cette lutte-là dans leurs universités et créer des liens entre les universités ici, mais aussi avec celle du reste de l'Europe. Mais je suis désolée, c'est aussi les étudiants à Columbia qui étaient mobilisés par exemple, et dans plein d'autres endroits. Donc à l'échelle de l'Europe, parce que c'est peut-être ce qu'on pense être le plus proche de nous, mais en réalité l'avenir de la jeunesse il se discute quand même à l'échelle mondiale.
Pour répondre plus précisément aussi aux questions de la jeunesse européenne, de la précarité des jeunes en Europe, est-ce que vous avez aussi des propositions un peu plus, j'ose pas utiliser
concrète.
Avec vous, oui, j'ose pas utiliser avec vous le terme réformiste, mais ouais, qu'est-ce qu'il est possible de faire aussi dans une perspective peut-être pré-internationaliste, en utilisant peut-être l'Europe comme levier, qu'est-ce qui peut être fait pour aider les jeunes face à la précarité grandissante, notamment depuis la pandémie de Covid-19, mais évidemment c'était présent bien avant.
Mais non, on n'est pas là à attendre le grand soir, hein. On est pour les réformes, mais par contre on est pour que ce soit nous qui les décidons et que ce soit nous qui les imposons, c'est ça la différence. Mais bien sûr qu'il faut se poser ce problème-là, et face à l'inflation, je veux dire, quand on a vu les queues des étudiants pendant le Covid, là en ce moment c'est les étudiants qui sont quand même fait virer des CROUS pour parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les JO. Bon, il y a quand même 3 millions de logements vides et on vient virer des étudiants précaires de leur logement universitaire. Nous, on défend dans notre programme d'urgence, pas un revenu en dessous de 2000 euros et une augmentation de 400 euros de tous les salaires. Je le dis parce que la jeunesse, elle n'est pas qu'étudiante, il y en a beaucoup qui travaillent.
C'est le mal habitude, vous laguez encore un tout petit peu, vous venez encore un tout petit peu de friser.
Et là, vous m'entendez?
Oui, là, c'est bon, ouais.
Allô,
merci.
Non, oui, bah désolée, parce qu'en fait, je suis dans une petite salle.
Oui, vous êtes en direct. Voilà, vous êtes dans un meeting juste après, effectivement.
Oui. Non, mais donc, je vous disais, pas un revenu en dessous de 2000 euros, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les retraites, ça vaut aussi pour les étudiants, pour qu'on puisse faire des études dans des bonnes conditions, qu'on ne soit pas contraint de bosser à côté et que l'école ne soit pas qu'une machine de tri social comme elle l'est aujourd'hui. Mais ces réformes, comme vous dites, ou nos mesures d'urgence, comme nous, on aime les appeler, on pense qu'on pourra les obtenir que par les luttes, parce que c'est pas les gouvernements et les organisations politiques qui iront les chercher à notre place.
Il y a quand même, je suis désolé, je suis obligé de vous poser des questions sur l'Europe, hein, parce que on est quand même à J-5 des élections européennes. Il va y avoir des eurodéputés français qui vont être envoyés au Parlement européen, et j'aimerais revenir avec vous sur la situation de la gauche et du NPA plus précisément, puisque je rappelle que le NPA révolutionnaire est le fruit d'une scission avec une autre branche du NPA qui a décidé de ne pas poser de liste pour justement non pas se ranger derrière une liste, puisque personne n'a voulu, notamment même la France Insoumise n'a pas voulu du NPA de Philippe Poutou et Olivier Besancenot, mais ils ont décidé de ne pas poser de liste pour ne pas apporter de division à la division et essayer de renforcer quand même l'appui que pouvait avoir la gauche au Parlement européen. Est-ce que c'est pas contradictoire justement d'avoir cette liste révolutionnaire et qui pourrait peut-être grappiller quelques voix et empêcher peut-être des eurodéputés de gauche de se faire le relais des mouvements sociaux justement et des mouvements de jeunesse?
Écoutez, nous, on n'est pas dans tous ces ces calculs politiciens de qui aura des places. D'abord parce que la lutte contre l'extrême droite, nous on pense que la seule façon de faire taire l'extrême droite, c'est par la rue, encore une fois. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié quand même à tous les moments où on était dans la rue, par exemple pendant la réforme des retraites, bah, on les a pas entendus en fait, l'extrême droite. Et là, bon, bah, évidemment, c'est eux qui ont le vent en poupe. Maintenant, sur la gauche, nous, on marche sur nos deux jambes, c'est-à-dire que on n'est pas contre toute alliance avec la gauche, ça c'est pas vrai. Nous, on pense que on peut être d'accord sur plein de choses dans la rue, dans les manifestations, comme je vous le disais, quand il s'agit de lutter contre les licenciements, quand il s'agit de lutter pour nos salaires, quand il s'agit de soutenir le peuple palestinien ou le peuple kanak, on n'a aucun problème à le faire le plus largement possible avec la gauche, les syndicats, il n'y a aucun problème. Mais dans les élections, on ne défend pas la même chose. On ne défend pas uniquement de taxer les riches, on défend d'exproprier le patronat. On ne défend pas de réguler l'immigration, on défend l'ouverture des frontières et la liberté de circulation et d'installation. Voilà, donc on considère que ce n'est pas des choses qu'on peut défendre ensemble. Par contre, on a fait la proposition à Lutte ouvrière parce qu'on pense qu'il faut qu'il y ait un pôle des révolutionnaires qui exprime clairement ce drapeau rouge, cet internationalisme et nos perspectives par rapport à ça. Ils ont refusé, mais on continuera de défendre ce pôle-là pour justement que la clarté soit faite entre ceux qui postulent à gérer les affaires de la bourgeoisie et ceux qui pensent que ce n'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir clarifié déjà vos positions sur la jeunesse européenne et sur la jeunesse internationaliste. Merci beaucoup, Selma Labib, d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes tête de liste NPA révolutionnaire en vue des élections européennes du 9 juin et on peut vous retrouver en meeting tout de suite. Vous nous appelez depuis...
Depuis Lille et on sera à
depuis
Paris
Lille.
Jeudi 6 au gymnase Japy à 19h.
Eh bien, c'est noté. Merci Selma Labib d'avoir été
merci
avec nous. Restez avec nous, chers auditeurs. L'heure est au bilan maintenant de ces mardis de l'Europe après une pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h, 19h16 justement.
Pas envie de te laisser mourir, ce qui me donne envie de bouffer la vie. Hey, je veux pas la vie faite de regrets. Je veux pas la vie que je voulais hier. Je veux pas la vie qui me dit que j'ai droit qu'à un seul essai. Je veux pas la vie passée à mort, avalée par mon téléphone. Je veux pas la vie dont j'ai passé la moitié à scroller. Mater la vie des gens pour pas m'écouter, me troller. Mater la vie des gens pour pas me sentir m'écrouler sous la mienne. Je veux la vie que je dévore, je veux la vie que j'honore, je veux la vie qu'il y a dehors, je veux la vie où je m'en sors, je veux la vie où je dors, je veux la vie qui s'écrit.
Et il est 19h19, c'était Freedom de Frida sur Radio Campus Paris, il est 19h19 et cette fois il n'y a pas la minute qui, d'après qui commence, voilà, c'est quand même plus pratique.
La matinale de 19h.
Merci Jade, toujours au rendez-vous et merci à l'équipe d'avoir chanté la petite chorale de la matinale de 19h. Comme je vous disais en sommaire de cette émission, voici venu pour nous le temps du bilan de toutes les listes qu'on a pu recevoir, les interviews politiques qu'on a menées, ce qui est un exercice très particulier, surtout quand on est une jeune rédaction, de gens qui apprennent aussi les rudiments du journalisme. C'est toujours des moments importants dans la matinale de 19h. Donc c'était ces mardis de l'Europe. J'accueille d'abord notre invité qui va nous accompagner pendant cette table ronde. Bonsoir Clara Bauer-Babeuf.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste aux médias Euractiv et vous allez suivre avec nous du coup le bilan de cette campagne européenne. On va faire un petit bilan pendant 20 minutes ensemble et vous allez aussi apporter vos précisions, votre regard sur les interventions de chacun des membres de la rédaction. Parlant de membres de la rédaction, je salue Agathe Diaz qui devait être là et je salue Mathie Guéras, j'avais écrit mais je n'ai pas effacé donc je les salue. Nous avons aussi Péa L'Hôtelier. Bonsoir Péa.
Bonsoir.
Tu as réalisé plusieurs Mardis de l'Europe, donc toi tu as eu une oreille intéressante, t'as pas été directement dans l'action de l'interview, mais
exactement.
T'as pu. Du coup, ce sera très intéressant d'avoir ton avis. T'as aussi présenté une émission, celle notamment sur l'éducation avec le PS/Place
oui.
Publique. En face de toi, sur ta droite, se trouve Akina Pied. Bonsoir Akina.
Bonsoir.
Toi, tu as mené l'entretien autour de l'écologie avec l'UPR. Il y a eu énormément d'autres listes, notamment, je vais en citer déjà une bonne partie, le parti Europe Équitable avec un sujet sur la sécurité intérieure, la culture avec le parti pirate, sur la sécurité intérieure on a eu aussi le lutte ouvrière, le numérique c'était avec les jeunes républicains, la santé c'était génération Z au nom de reconquête avec l'économie aussi avec l'écologie au centre, il y a eu la défense européenne avec les jeunes communistes, l'emploi avec le parti Equinox, Volt Europa sur le numérique et à l'instant c'était la jeunesse avec le NPA révolutionnaire. Une dernière personne qui est autour de la table, c'est José-Louis Gibault.
Bonsoir
à toi, on te retrouvera pour la chronique, mais tu vas aussi participer à la discussion parce que tu es sur tous les fronts. Il ne vous échappera pas, je viens de vous faire une énumération des listes. On n'arrive pas à 38 listes interviewées pour l'élection. Les 26 autres partis, je précise, que je n'ai pas nommés, soit on ne les a pas reçus à la matinale parce que d'autres programmes de Radio Campus Paris les ont reçus sur le temps de la campagne électorale, c'est le cas de la France Insoumise avec la demi-heure, soit ils n'ont tout simplement pas répondu à notre invitation. Je commence avec une première question, tour de table générale, on commence avec les membres de la rédaction et puis après on va arriver à vous, Clara Bauer-Babeuf. Quel est votre ressenti sur la campagne européenne? Évidemment, les amis de la rédaction parlent aussi de votre ressenti par rapport au Mardi de l'Europe et puis ensuite on arrivera sur le ressenti de la campagne globale. On commence avec toi, PA.
Ok, c'est parti. Déjà, je pense que c'était intéressant d'aborder la campagne d'un point de vue journalistique et pas simplement de citoyen lambda, donc d'avoir peut-être un œil un peu différent sur les élections, de pouvoir écouter les candidats directement dans un cadre autre que celui des grands médias, donc d'avoir peut-être une accessibilité un peu plus grande face aux candidats, face à leur programme, et de pouvoir, donc moi j'ai pas fait l'interview personnellement, mais de pouvoir... voilà, être dans ce cadre de la rédaction de la matinale de Radio Campus, de voir un peu comment les interviews se préparent, comment elles se conduisent, et de pouvoir aussi, je pense, accueillir les candidats, les candidates, peut-être dans un cadre où on peut plus facilement les mettre face à leurs contradictions, on peut plus facilement les corriger, les interrompre, ce qui demande un travail de recherche en amont assez important quand même. On a pu le voir par exemple avec Génération Z, du coup Agathe et Mathie qui se sont très bien sortis malgré tout, je pense,
face à la dire.
Exactement. C'est tout ce qui s'est dit dans cette interview là, mais ça demande un mental d'acier quoi, pour pouvoir réagir sans s'énerver en contestant les faits, enfin en contestant les conneries qu'ils disent en se basant sur des faits, en se basant sur les faits justement.
On va en parler de...
Donc ouais, gros dos.
Fact-checking, on va pas dire conneries.
Exactement.
Parce qu'on a quand même un angle journalistique, je le rappelle.
Exactement.
Mais c'est intéressant de déplier tout ça effectivement.
Ouais.
José-Louis, toi ton ressenti sur toute cette campagne. Toi t'as été énormément au Zoom aussi parce qu'on a fait, évidemment je vous invite à réécouter tous les épisodes qu'on a pu faire, mais on a eu aussi énormément d'interviews sur des actrices de la culture européenne. Quand je dis culture, ça vaut pour vraiment l'art, mais aussi pour la vie associative européenne et énormément d'autres éléments. Quel est ton ressenti, toi, José-Louis?
Alors, peut-être un ressenti général, c'est-à-dire que c'était déjà une très belle équipe, super bien menée de main de maître par Lucas et Louise. Il y a eu vraiment une symbiose entre tous les acteurs, tous les bénévoles. On a beaucoup discuté, débattu sur la direction qu'on voulait donner, le ton, et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez intéressant. Moi, en tant que bénévole, bah, c'est vrai que c'est, comme disait PA, c'est super intéressant de pouvoir avoir une approche journalistique et ne pas seulement regarder les débats, écouter les débats et de les avoir en face et de se rendre compte que, bah, en fait, ils sont humains et indépendamment de ce qu'ils peuvent défendre, ce sont des hommes et des femmes, mais que ce sont de très bons communicants et qui savent très très bien répondre aux questions et ils ont des éléments de langage qui sont vraiment coupés ou tirés au couteau, enfin je ne connais plus l'expression mais voilà, dans le sens où c'était une très belle expérience. Je pense qu'on a eu des bons intervenants, malheureusement on ne les a pas tous eus, mais ceux qu'on a eus étaient vraiment de haut niveau et ils ne nous ont pas considérés comme une petite radio. La plupart étaient plutôt contents, enfin étaient contents quand ils terminaient, parce qu'effectivement on allait dans les sujets, on tenait tête et enfin voilà, moi j'ai vu Nathalie Arthaud et c'est vrai qu'on l'a pas ménagé, donc voilà.
Les seules listes qui nous ont considérés comme des petits médias sont celles qui ne nous ont pas répondu à Kina. Toi, ton ressenti sur la campagne?
Bah, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant. C'était très intéressant aussi le format que de 12 minutes seulement. Je pense que ça nous a forcé assez de réfléchir à qu'est-ce qui était le plus pertinent à poser. Et aussi, généralement, comme ça a été dit, les politiques ont souvent des éléments de langage. Donc ça nous force un peu à les couper quand ils commencent à aller dedans et se dévier du sujet. Et aussi réfléchir à qu'est-ce qui est important pour les gens, qu'est-ce qui fait que... Parce que l'Europe, souvent, ça semble un peu un concept éloigné. Donc ça nous permet de nous demander qu'est-ce qui... va impacter concrètement les gens et quelles questions on doit poser pour que les gens puissent refléter sur ça. Et je pense que c'était intéressant parce que du coup, comme on devait préparer nos interviews avant, ça nous a permis de voir à quel point ou non les informations autour de l'Union européenne étaient accessibles.
Parlons d'accessibilité justement avec Clara Bauer-Babeuf. Alors d'abord, évidemment, votre ressenti sur la campagne européenne. Et aussi, c'est la question qu'on voulait vous poser justement juste après, c'est comment vous travaillez au sein de Reactive à rendre accessibles ces questions européennes, les enjeux européens d'abord, puisque, et ensuite les programmes, ce qui peut paraître extrêmement complexe de prime abord et ça a l'air d'aliéner quand même énormément de gens.
Oui, absolument. Et je pense que vos deux questions sont très liées parce qu'en fait, tout l'enjeu de couvrir une campagne européenne, c'est de réussir à intéresser les gens au niveau national et du coup ici, les Français et particulièrement les jeunes. Et je trouvais ça assez intéressant parce que si on regarde un peu les thèmes de campagne que vous-même vous avez abordés dans vos interviews et qui étaient hyper intéressantes, il y a la santé, il y a la défense, il y a le numérique, il y a l'écologie. Enfin, en fait, et à côté de ça, on a aussi plus d'une trentaine de listes. Donc c'est un peu comme on fait avec... autant de sujets qu'il y a presque de listes et de têtes de liste. Il faut d'abord aussi comprendre comment ça fonctionne, les élections européennes, ce qui est très peu accessible finalement dans les médias et dans les informations. Et heureusement que vous faites ce genre d'émission pour rendre ça plus accessible. Donc je pense que c'était très intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, il y a eu médiatiquement, il y a eu une différence de couverture selon les partis et les sujets. Et je pense que c'est là où ça peut faire défaut à certains partis et surtout aux citoyens qui n'ont pas forcément un accès à l'information facile.
Quand vous parlez de différents accès à l'information, vous parlez des dites petites listes, par exemple. Donc, par exemple, là, j'en ai cité pas mal, mais par exemple, le parti Equinox, parti Pirate, et tous les autres. C'est vrai qu'il y en a énormément. Je pense qu'à la télévision, le plus de listes qu'on a vues le même jour, c'était 12. Donc, il en restait encore 26. Quoi. Enfin, c'est à ça que vous faites référence?
Oui, je fais référence à ça, mais je fais aussi référence à comment sont audibles 8 candidats que vous mettez en plateau télé, donc les principales têtes de liste.
On arrive au débat de BFM de je sais plus quand.
Oui, c'est ça. Et en fait, vous avez 8 personnes à qui on pose la même question. Et enfin, on se rend compte que ce format est impossible. Mais en même temps, vous êtes aussi obligé de faire parler les 8, évidemment par souci de démocratie. On peut aussi parler de l'omniprésence du Rassemblement National dans les médias ou comment est-ce que le parti d'Emmanuel Macron s'impose aussi énormément dans cette campagne. Je trouve que médiatiquement, il y a eu un tel capharnaüm que ça a pu être parfois compliqué pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose aux affaires européennes de s'y retrouver.
Et que ça a été justement le... Il y a quand même une certaine pollution dans les campagnes européennes, notamment avec ce que vous avez dit, mais c'est un des enjeux dont on voulait parler aussi dans cette émission, c'est le côté très franco-centré des programmes. C'est-à-dire que moi, je me souviens, la première fois que j'ai voté, c'était en 2019. Je me suis plongé dans les programmes parce que je me disais, j'étais tellement paumé que je me disais que ça allait être dans les programmes que j'allais trouver un peu une réponse, quoi. Et au final, j'avais l'impression de lire des programmes à la présidentielle, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous... que vous en pensez, José Louis? Ouais,
Effectivement, il y a un énorme décalage entre l'enjeu, entre la réalité et le fonctionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'on va voter pour quelque chose qui n'est pas forcément très important, qui est assez satellitaire dans notre univers, dans notre monde. Et en fait, on vote pour les gens qui vont voter les lois qui seront directement transformées nationalement. Donc effectivement, les partis, enfin le jeu fait qu'on essaye de nous faire croire que c'est très franco-français, alors qu'en fait ça l'est, mais pas que. C'est-à-dire que c'est des décisions européennes qui vont être appliquées partout et qui effectivement in fine vont retomber sur nous. Et donc je trouve que comme vous le disiez, toute la présentation, toute l'animation est trompeuse. Est-ce que les médias jouent le jeu ou est-ce qu'ils sont ils sont pris en otage comme les politiques savent très bien le faire, quoi.
Sachant que sur ce côté programme, PA ou Akida, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Enfin, c'est quelque chose qui vous a marqué pendant tous ces mardis?
Bah oui, je pense qu'effectivement le côté le retour sur la France se fait assez rapidement sur les différentes thématiques. Je pense que ça traduit une forme de nationalisme un peu patent, ambiant, qui fait que sur toutes les thématiques qu'on défend, on a envie de revenir sur, je sais pas, sur le plus proche. Et beaucoup de candidats, surtout les candidats de droite, c'est un peu la balle facile, en fait, de revenir vers le patriotisme, le nationalisme ou la France qui serait dans les discours. On a l'impression que ce qui nous unit avant tout, c'est d'être français avant d'être européen. Dans beaucoup de partis, on a l'impression que c'est ça qui ressort. Donc voilà, que du coup,
je te coupe juste sur ça parce qu'en fait, justement, ce centrisme franco-français, c'est un leurre. C'est pour que justement on ne comprenne pas ce qui se passe réellement au niveau européen et qu'on prenne les bonnes décisions au lieu d'envoyer des gens qui vont détricoter le programme et l'unité. On va envoyer des gens qui vont, enfin, au lieu d'envoyer des gens qui vont justement protéger cet ensemble, on va envoyer des gens qui vont le détricoter. Pourquoi? Parce que on centre le débat sur le. Donc c'est un leurre, tout ça.
Clara Bauer-Babet, justement, vous avez ce sentiment-là aussi de, à droite notamment, avec des questions de nationalisme, mais aussi à gauche, d'aller sur des questions des travailleurs français. Enfin, est-ce que c'est une sensation que vous avez, justement, ce côté franco-centré du débat européen?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense que quand on voit, je vais citer le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella il y a une ou deux semaines, il me semble, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais à juste titre, déjà, qui est Gabriel Attal pour se présenter face à Jordan Bardella alors qu'il n'est absolument pas la tête de liste? Il est le Premier ministre. Ou alors, où est Valérie Ayé? Ça dépend comment on pose la question. Mais effectivement, il y a une récupération et je trouve ça dommage parce que, par exemple, si vous regardez les derniers sondages, le parti que représente Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, talonne quand même la majorité présidentielle. On est à peine à un point d'écart, c'est genre un peu du 15%, 17%. À quel moment, dans ces cas-là, on n'a pas un débat à trois? Parce qu'on ne parle pas de deux partis qui sont hyper hauts dans les sondages au coude à coude. Non, non. On est vraiment à quelques points d'écart et c'est aussi évidemment un moyen pour la Macronie d'effacer complètement Raphaël Glucksmann et de dire non, mais attendez, c'est pas un danger, tout va bien, on va pas se faire dépasser, recentrons-nous sur le Rassemblement National. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire que ça crée l'effet inverse parce que du coup, Bardella est surmédiatisé et invité à dialoguer au même niveau que le Premier ministre, donc ce qui le rend aussi hyper crédible en politique, en fait.
Et justement, il y a aussi ce côté personnification de la campagne européenne. Il y a tout l'enjeu autour de, enfin, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on est déjà en 2027 dans la tête de certains, quoi. Enfin, même dans la couverture médiatique des élections européennes, c'était déjà une antichambre, une primaire de la présidentielle, notamment à gauche, mais aussi je pense à droite, ça se manifeste complètement, notamment avec la séquence qu'on a pu voir hier où il y a Gabriel Attal qui vient carrément prendre le micro de Valérie Yeye sur France Info. Une séquence absolument dingue. Quel est votre ressenti justement sur ce côté personnification aussi de la campagne? Akina, peut-être t'as pas dit de mot aussi sur le côté franco-centré des programmes. Je sais pas si t'as...
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et je pense aussi que la plupart, en tout cas ça dépend lesquelles, mais effectivement plus celles de droite et d'extrême droite, parlent pas trop du fait que les lois européennes sont au-dessus des lois françaises constitutionnellement et que du coup ça fait que certaines lois françaises sont influencées par les lois européennes et du coup c'est rarement mentionnés dans leur programme, quand on n'a pas la droite et l'extrême droite qui dévient totalement sur d'autres sujets.
On va parler de ça, ouais.
Et pour, par contre, pour la personne que j'ai interviewée, du coup, l'UPR, eux, c'est un peu différent, je dirais.
C'était
parce
François Asselineau, du coup, ouais. C'est le président du parti et tête de liste.
Oui, parce que eux, ils sont vraiment concentrés que sur l'Europe. Au contraire, justement, en parlant tout le temps du Frexit, mais c'est du coup l'Europe d'un point de vue français. Et ce que on peut trouver dommage dans leur programme, c'est que tout est concentré sur la sortie de l'Europe, mais il n'y a pas trop de propositions autour de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sorti de l'Europe, parce qu'ils considèrent que tous les enjeux qui font, enfin, ils considèrent que le clivage gauche-droite est à mettre de côté en attendant qu'on soit sorti de l'Union européenne, mais du coup ça donne pas vraiment de solution quoi sur ce qu'est-ce qu'on compte faire après.
Justement, c'est intéressant que tu parles de l'UPR, parce qu'il y a aussi du coup dans le cadre des mardis de l'Europe, voilà, on rappelle c'était des émissions thématiques tous les mardis, ça a été l'occasion pour certaines listes que nous avons reçues de trouver un moyen à tout prix de rappeler leur marotte quoi. Voilà. Dans le cas de l'UPR, c'était le Frexit. Dans le cadre de la droite extrême et de l'extrême droite, c'était dans le cas des Républicains, l'obsession pour l'immigration, alors que c'était un sujet sur le numérique, ils ont quand même trouvé un moyen de ramener à l'affaire Lola. Sur Génération Z, c'était l'avortement dit de confort par l'extrême droite et les drag queens dans les écoles. Je rappelle que Drag Race France a repris sur France.tv. comment justement vous avez perçu ça, le fait que quel que soit le sujet, c'est un prétexte aussi à ce que l'extrême droite déroule son discours quoi. Alors, notamment c'était quand même pour nous justement jeunes journalistes, et peut-être pour Clara Bauer-Babeuf, je ne sais pas si vous avez interviewé des personnes d'extrême droite aussi, c'est quand même impressionnant de voir ce truc qui est réglé de manière à ce qu'ils arrivent à leur sujet de toute façon. Qui veut commencer?
Alors moi je commence très rapidement mais
quelques mots parce qu'on a encore beaucoup de sujets à discuter
comme tu l'as dit, comme on a tous répété, c'est-à-dire que on a en face de nous des professionnels qui ne sont plus des personnes qui défendent ils ont sûrement des valeurs et des morales, mais ils sont conditionnés, ils viennent tous du même cru et de la même caste, et pour la plupart en tout cas, et ils nous sortent tous les mêmes éléments de langage. Alors ça varie un peu suivant la couleur où ils se trouvent sur l'arc-en-ciel, mais concrètement c'est on se protège, on
extrême
protège.
Droite, il y a pas d'arc-en-ciel, hein, je précise.
Faut regarder un peu derrière, hein, je pense que. Mais voilà, Nathalie Arthaud, elle était sur révolution, révolution, révolution. Quoi qu'on lui demandait, c'était révolution, révolution, révolution. Elle est même allée jusqu'à nous dire, mais moi, en fait, je m'en fiche d'avoir des postes. Moi, ce que je veux, c'est que mes sujets soient écoutés. Donc moi, enfin, pour répondre à ta question, c'est les jeux romains et le bon peuple est diverti pendant que tous ces gens se battent pour avoir la lumière. Et on oublie justement les vrais sujets. Qu'est-ce que l'Europe? Pourquoi l'Europe? C'est quand même, on a créé l'Europe pour éviter la guerre mondiale. Voilà.
Et en même temps, juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est dur de mettre au même niveau le Nathalie Arthaud qui aborde la révolution et Génération Z qui aborde l'avortement de confort. Tu vois, au niveau éléments de langage, on n'est pas sur la même échelle de gravité.
Bien sûr, c'est-à-dire que tu prends tu considères ton auditoire d'une manière totalement différente, ça c'est clair.
Oui, voilà, c'est ça, mais je veux dire, tu t'avais l'air de mettre les. Enfin voilà, je voulais juste.
C'est ce qu'ils font.
C'est la même stratégie, mais je veux dire, ça n'a pas la même gravité. Dans un cas, on parle d'une stratégie politique, et dans l'autre cas, on parle d'un mensonge, en fait, simplement sur la santé. Tu vois.
Et je dirais que c'est aussi pour Lutte Ouvrière ou le NPA, à mon avis, c'est juste que, comme ils ont un point de vue révolutionnaire, comme ils l'ont dit dans l'interview juste avant, c'est pas par les élections qu'ils vont voir la révolution. Donc pour eux, ils mettent pas, à mon avis, tous leurs espoirs dans l'Europe, c'est juste plutôt un outil. Et pour eux, à chaque fois qu'on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de quelles mesures écologiques à faire, pour eux, tant qu'on sera dans un système capitaliste avec une démocratie participative, on pourra pas mettre les changements qu'ils veulent mettre en place. Donc pour moi, c'est pour ça qu'ils reviennent toujours à la révolution.
Mais c'est vrai que ça rend l'exercice, en tout cas pour les personnes qui sont dans un exercice journalistique particulier. Je sais pas si vous avez une expérience un peu similaire, Clara Bauer-Babeuf, à partager dans le cadre de votre couverture de la campagne sur Euractiv.
Bah ouais, je pense que les éléments de langage, c'est vraiment le cœur de la bataille, parce qu'ils ont tous les mêmes, et si vous regardez un peu les interviews, souvent c'est les mêmes expressions qui reviennent. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'interviewer Manon Aubry, et un de ses grands slogans, c'est l'éthique avant le fric, et je pense que ça, je l'ai lu à peu près partout où elle a pu parler. Du coup, je pense qu'il faut les connaître et essayer justement de, ok, bon bah elle vient de me dire ça, c'est son truc, elle le connaît par cœur, elle le place tout le temps, elle sait où elle va, qu'est-ce qu'on en fait. Il faut, je pense qu'il faut, ouais, il faut bosser un peu leurs éléments de langage, et c'est comme ça qu'on réussit un peu à les avoir et à les piéger, parce que sinon du coup c'est de la communication pour eux, quoi.
Enfin, c'est en surface, je crois, si on s'arrête à l'élément de langage qui est abordé, en fait,
ouais,
on
c'est ça.
Va pas creuser plus loin. Et dans le cas de, bah, dans le cas de l'avortement de confort de génération Z, ça passe par le fact-checking, en fait, et de rappeler en fait,
oui,
de rappeler que c'est un mensonge, en fait, c'est ça. Enfin, notre travail de journaliste, c'est ça aussi, de rebondir et de creuser plus loin.
Pour ça, d'ailleurs, Agathe Diaz et Mathilde Garas, qui ont mené l'interview d'une main de maître, parce que c'était pas évident d'avoir ce qu'il y avait en face d'eux. et de moi aussi, j'y étais. Une grande absente de cette campagne européenne, c'est évidemment l'écologie. Alors qu'on est 5 ans après les Fridays for Future, on est 5 ans après Greta Thunberg et les marches pour le climat. Clara Bauer-Babeuf, vu que on va clore la table ronde avec cette question, quel est votre ressenti justement sur l'absence de l'écologie de 2019 à 2024?
Là, c'est assez catastrophique. On est à deux doigts de ne pas avoir d'eurodéputés verts français au Parlement européen. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. Peut-être déjà, c'est un mandat qui a été traversé par plein de crises, la guerre en Ukraine, la précarité énergétique, le pouvoir d'achat. Donc peut-être que les priorités des gens aussi ont changé. Et je pense que l'autre catastrophe aussi, c'est que là où l'électorat majoritaire des Verts en 2019, c'était les jeunes, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national.
Donc il y a un vrai enjeu aussi autour de ça, de sensibilisation à mener sur les questions écologiques. Ce que vous menez aussi avec Euractiv, ça c'est un des enjeux principaux pour vous aussi, de contrebalancer peut-être la campagne mainstream entre guillemets.
Oui, absolument. Enfin, je pense pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que l'écologie c'est un petit peu important pour l'avenir quand même.
Il y a un petit sujet. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette table ronde. C'est passé à une vitesse assez phénoménale. Merci beaucoup déjà à l'équipe, à Kinapier, PA L'Hôtelier et José Louis Gibault qui reste avec moi parce qu'il a sa chronique en fin d'émission. Merci beaucoup Clara Bauer-Babeuf d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes journaliste aux médias Euractiv et qu'on peut vous retrouver sur euractiv.fr.
Absolument.
Je pense que tout est réglé. 19h40, tout de suite le zoom. Et on n'a pas de générique, mais en revanche, on a de la musique. On a un live tout de suite, puisque dans un court instant, c'est Fabrice qui va interviewer le groupe Sage comme des Sauvages. Mais d'abord, on va les écouter. Ça figure dans leur dernier EP et dans leur album qui sort vendredi. C'est un titre qui s'appelle Le Loyer. On vous écoute.
C'est compliqué, le loyer en liquide. L'on ne fait que de monter. J'ai perdu mon chien stupide. On dirait je commence à me noyer. Et partout tout s'est mis à flotter. Quand s'est effondré la retenue, mais s'il a déjà disparu, pourquoi t'appelles ça un revenu? Et on a bien peu de choses, mon ami la rose, enfin tu sais, et les fleurs sont périssables. Quand on n'a pas le budget, paraît qu'il n'a pas d'odeur, et que tous veulent l'avaler, paraît qu'il fait pas le bonheur. Enfin oui, mais. Qui paye? Qui paye pour ce qu'il a fait? Qui paye pour ce qu'il devrait? Qui paye pour son sommeil? Qui paye pour oublier? Choisir d'habiter dans son camion, oh les nouvelles évidences, oh la durée des horizons, et l'essence est trop liquide et ne peut pas nous chauffer. Oh, comme la vue est splendide. Oh, tu sens-tu le froid de mes pieds? Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, le montant, le montant, le montant de l'argent compte aussi, compte bien, compte trop sur des doigts qui n'y comprennent rien. Et quand on n'a que l'amour et qu'on essuie des verres au fond du café, le temps qui en va tout s'en va. Bah c'est du temps cher mal payé, paraît qu'il n'a pas d'odeur et que tous veulent l'avaler, paraît qu'il fait pas le bonheur. Enfin oui, mais enfin oui, mais qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye pour ce qu'il a fait? Qui paye pour ce qu'il devrait? Qui paye pour son sommeil? Qui paye pour oublier?
Je pense qu'on peut applaudir là dans le studio de Radio Campus Paris, Sage comme des sauvages. C'était Le Loyer. Merci beaucoup pour ce live. Et tout de suite, on va discuter avec vous de ce morceau et de tous les autres passés et à venir avec le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom présenté par Fabrice Thiercy. Bonsoir Fabrice.
Salut Simon. La matinale de Radio Campus reçoit Sage comme des sauvages et le groupe est composé d'Ismaël Colombani et de Ava Carrère. Merci à vous deux d'être là.
Merci. Merci à vous.
À vous.
Alors votre EP est sorti le 24 mai 2024, il s'appelle L'Inverse et votre album Maison Maquis sortira ce vendredi 7 juin. Il s'agit de votre troisième album. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de ce titre Maison Maquis?
Alors, on cherche toujours le nom d'album à la fin. On met plein de chansons ensemble. On se dit, qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Parce que déjà, on parle à deux, donc c'est toujours un peu technique, surprenant. Et en plus, on se pose pas trop les questions avant coup. Et Maison Maquis, c'était trouver un lieu convivial. Notre musique, on voulait l'avoir comme ça, qui permette de s'y réfugier, faire la fête et préparer le... se redonner un peu de vigueur pour tout le bazar à venir dès qu'on passe sa porte un petit peu.
Et résister.
Voilà, c'est un peu ce double truc où souvent la difficulté un peu dans notre monde, et surtout quand on est un peu sensible à la politique, c'est de ne pas trop se déprimer les uns les autres.
Ah bah c'est une saison, ouais, résister, c'est un message de saison.
En parlant de ça d'ailleurs, vos titres sont très actuels, obsolescence programmée des objets cassés, l'inflation et la difficulté des fins de mois, comme on vient de l'entendre dans Le Loyer, ou encore le vélo dont le développement explose ces dernières années. À qui vous adressez-vous et pourquoi était-ce important d'aborder ces sujets?
Oh oh!
Dure question, c'est ça?
Ouais, je te laisse. T'as, t'es mieux pour ces questions-là. Moi, je suis plus dans les jeux de mots et dans la.
D'accord. Enfin, et vous, c'est la vie sur la Convention de Genève, quoi.
Oui, voilà.
Moi,
c'est
tout ce qui est. Chacun son truc.
Tout ça. C'est très, très varié. Par exemple, le loyer, c'est un truc qui nous touche à nous autant qu'à vous. Enfin, c'est vraiment le sujet le plus facile à en parler. À chaque fois, tout le monde est là. Tu chantes, tout le monde hoche la tête. Mis à part être un héritier de plus de 60 ans, il n'y a pas trop de raison que ça te concerne.
De moins de 60 ans aussi, il y a des très jeunes héritiers.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà, la France est quand même le pays au monde avec le plus de résidences secondaires, donc que tu habites en ville ou à la campagne, même galère. Ça c'est rigolo déjà, c'est un peu le truc.
Ça y est, j'ai réfléchi et en fait on s'adresse à tout le monde. Parce que si tu vois, en fait nos chansons plaisent autant aux enfants qu'à leurs grands-parents et les parents et tous ceux entre eux. Et je pense que chacun y trouve quelque chose.
Oui, on essaie de faire des chansons un peu chroniques de là où on en est. Voilà, et il se trouve que peut-être...
Et on s'amuse dans les formes, et je pense que ça, tout le monde peut y être sensible, c'est pas... Voilà, c'est ludique, quoi. Enfin, il y a quelque chose de...
On essaie de se situer entre tout ce qui est pop et tout ça, où souvent, c'est quand même les classes bourgeoises qui sont très représentées, qui chantent l'amour comme si c'était un petit peu évident, là où des fois c'est un peu plus galère. Et le hip-hop, qui est du coup une grosse, grosse résurgence de classes populaires qui ont été un peu bridées pendant longtemps, donc qui ont une très faim. Et on les comprend. Et nous, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire cette espèce de monde un peu plus intermédiaire où on profite de certains privilèges des blancs tout en n'ayant pas le budget de certains autres.
La troisième voie.
D'après le Larousse, il y a plusieurs définitions d'un maquis, des arbustes et des buissons de forêt méditerranéenne, un lieu retiré de la Seconde Guerre mondiale, des complications inextricables et un dancing en Afrique. À quelle définition fait référence
ce titre ?
C'est
tout ça, c'est génial,
c'est tout ça en
exactement
même temps,
ça.
Ouais.
Tu
tout
vois,
ça.
Je t'avais dit, on n'avait même pas autant réfléchi que toi. C'est ça qui est bien. Grâce à toi, on t'invite la prochaine fois aux interviews, tu répondras pas.
Il n'y a aucun problème, je suis là.
Il y a une conférence de presse en première partie qui se prépare pour Sage comme des sauvages.
Donc ouais, c'était vraiment l'idée du dancing, du refuge, tout ça en même temps, tout ça. Et l'idée de la végétation aussi.
Ah oui, nous toujours, il y a toujours un rapport quand même au végétal, on est toujours un pied quand même en dehors de la ville, un pied dedans, un pied dehors. D'accord. C'est toujours quand même notre musique, elle cherche un peu ça quoi. Voilà, c'est qu'elle est, on est en zone urbaine quoi, on est du côté de Montreux.
On est un peu
Melun,
en guerre
Montreux,
en ce moment,
tu vois. Comment ?
On vous considère un peu en guerre en ce moment ?
En guerre, non, ah c'est les autres qui nous attaquent, mais on n'a rien fait.
Oui, oui.
Moi, je serais ravi de pouvoir mener ma vie tranquille, on joue de la guitare, on mange des chips. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, tous les matins, t'es obligé. Moi, c'est un truc qui me rend ouf, personnellement, je veux dire. T'es obligé de te positionner par rapport à des gars qui parlent mal de toi, de ta gueule, ou de gens que t'aimes bien, ou de gars qui en attaquent d'autres. Enfin, je veux dire, c'est le monde d'après, là, on dirait. Tu sais, il y a des séries, j'avais regardé une série qui s'appelait Alias, c'est une série d'espionnage avant. Et à un moment donné, au bout de la troisième saison, ça marche et les scénaristes commencent à faire nimp. C'est un agent double, en fait, c'est un agent triple. En fait, j'ai l'impression que la vie, c'est devenu ça. Chaque nouvelle saison depuis Covid, ils font n'importe quoi pire. Mais c'est pas possible.
Non, puis je pense que considérer qu'on n'est pas en guerre, c'est vraiment un privilège. Et celui-là, j'ai pas envie de le prendre. Ouais. D'ailleurs, j'ai inventé une super blague. Ce matin. Alors.
Mais moi, je la connais pas.
Mais si, je te l'ai dit tout à l'heure. Ce matin. Je vais la dire à Ismaël.
Ok.
Hey, Ismaël, tu sais pourquoi on est blanc ?
Non.
Parce qu'on est surexposé.
Alors là, c'est une blague de Técos, donc là, je pense tout le monde.
C'est une blague de photographe.
Je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre hein, quand même en écoutant l'émission.
Contre, ouais. Mais ils vont se renseigner et puis
il
ça
ira. Il suffit de regarder les poils à
rouler. Elle est géniale.
C'est pour vous. Hein.
Je peux la noter.
C'est une exclue.
Ah,
je te la prête.
C'est gentil.
Mais tu me.
Bien sûr. Ah, non, surtout, bien sûr.
Dans l'album, il y a une musique en créole suivie d'une musique grecque, les deux encadrés par des musiques en français. Vous mentionnez Barcelone et les Antilles. Est-ce qu'un des objectifs de votre musique est de faire voyager l'auditorice ? Et si oui, quels sont les autres objectifs ?
En fait, je pense qu'on voyage quoi qu'il arrive, parce que enfin, tout autour de nous... Enfin, je veux dire, il y a une telle mixité...
Le monde post-colonial ou capitaliste fait quand même... Tout le monde est bien mélangé, hein. Il n'y a plus trop de... Le fait d'être vraiment originaire de quelque part, c'est vrai, mais c'est mêlé, quoi. Il y a des couches de tout.
Ouais, je pense que vivre dans son quartier, ça forme plus la jeunesse que les voyages.
Bah, en fait, même on pourrait... Nous, on inverse pas mal l'exotisme, sans vouloir te contredire. Souvent, justement, on a une idée d'exotisme vers l'ailleurs, alors qu'en fait, la créolisation, enfin, nous, c'est un truc que ça nous a explosé un peu au visage à La Réunion. Et s'il y a un truc dingue de la créolisation, c'est une espèce de mélange un peu autogéré, loin du centre et de la revendication nationale ou identitaire. J'ai discuté de ça avec Bertrand Dical, qui est assez. Il nous disait, par exemple, la Jamaïque a arrêté d'être créole au moment où elle a commencé à revendiquer une espèce d'appartenance jamaïcaine. Voilà, tant que c'est un peu intermédiaire. Et je pense que là, par exemple, à l'heure actuelle, les grandes villes, on est turbo-créole sans s'en rendre compte. Et en fait, souvent, c'est des valeurs qu'on a, c'est-à-dire des façons de vivre, etc., qui sont ultra intégrées, mais on n'y accorde pas de valeur particulière. Moi, j'adore. Enfin, à Paris, par exemple, c'est incroyable pour ça. C'est nimp. Les riches, les pauvres, les couleurs de peau, les restos. Enfin, tu vois, telle culture qui va manger dans le resto de telle autre culture. Mmh. Moi, j'adore les bars tabac où t'as une partie qui est tenue par les Chinois, la autre partie jeu, tout ça à gratter, et l'autre partie, des fois, c'est encore tenu par les Kabyles. Et ils font un vieux café parisien à l'ancienne. Non, mais vous connaissez, mais moi par exemple, moi je vois ça, je suis là. C'est génial. Et après, nous on habitait à Bruxelles aussi, donc c'est d'autres créolisations. Mais même nous, musicalement par exemple, pour la musique qu'on fait, où nous on est très friands de gens qui vont avoir un peu des liens avec ce qu'on pourrait être des musiques, j'appellerais ça des musiques populaires, pas encore trop commerciales. Parce qu'en gros, c'est souvent ça. Nous on en a des musiques populaires, mais direct, il y a un mec qui vient. Il produit ça, puis ça devient du business. Donc elle garde son côté populaire, mais c'est moins naïf, on va dire. Et du coup, bah, je sais pas, nous on a eu deux percussionnistes dans notre groupe. Le premier était mexicain, mais il habitait dans une commune de Bruxelles. L'autre est brésilien, pareil. Donc en fait, et c'est des gars qui maîtrisent à fond leur truc, qui ont grandi dans leur pays respectif, etc., etc. Et on a rencontré, par exemple, la première joueuse de une musicienne, qui est une joueuse de basson, qui a un instrument vraiment ultra classique, basson français en plus, puis il y a le basson allemand, c'est pas le même, ils s'embrouillent entre eux, enfin, c'est technique. Et un peu Lyon, Saint-Etienne. Ouais. Du coup, elle, on l'a rencontrée en covoite. Et elle, par exemple, c'est vraiment issu de la culture un peu classique, française, etc. Mais tout est en fait lié à notre mode de vie. Nous, on faisait juste le covoiturage Paris-Bruxelles. Donc voilà, nous, je pense qu'il y a beaucoup, à manger chez nous, et souvent, on n'y accorde pas une valeur particulière.
Et nous, on ne fait jamais de tourisme. On voyage si c'est pour faire de la musique. Et sinon, on trouve le café le plus proche et on y passe toute la journée et on regarde ce qui se passe. C'est comme ça qu'on...
Voilà. Par exemple, les instruments qu'on a, eh ben, mis à part un, c'est tous des rapports familiaux. Les parents d'Ava, ils habitent en Grèce, ma mère habitait au Brésil. Bon, bah, voilà.
Eh bien, en tout cas, mais après, il n'y a pas de Lyon-Saint-Etienne, en tout cas. Il y a juste des bourgeois méprisants et il y a les Stéphanois.
Enfin, je suis d'accord.
Eh bien, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
À vous.
Là, on va dire un truc sur en direct.
Oui, allez-y. Ouais,
allez-y. Demain, on fait la release partie de notre album, Péniche Métaxou à Pantin. Normalement, c'est complet, mais si tu forces un peu, on va élargir un peu la péniche.
Eh ben, on va essayer de pousser les murs.
Avant 20h.
On va pousser les murs de la péniche, voilà. C'est une belle activité pour un mercredi. Merci beaucoup, Sage Cop des Sauvages,
merci
d'avoir été
merci.
Au micro de la matinale. Je rappelle que l'EP L'Inverse, du coup, c'est déjà disponible depuis quelques semaines. Et votre album Maison Maquis, ça sort ce vendredi. Donc, on se retrouve demain sur la péniche du Métaxou, place de la Pointe à Pantin. Et aussi, encore sur Paris, les 5, 6 et 7 novembre au studio de l'Ermitage dans le 20e. Et merci évidemment beaucoup à Fabrice Tiercy à l'animation de ce Zoom. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h55.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
19h55, encore quelques minutes sur Radio Campus Paris. On passe à la chronique de José-Louis Gibaud. Rebonsoir José-Louis. Chine, Russie, Iran, la revanche des empires. Tout un Star Wars.
Merci Simon, bonjour à tous, rebonjour. Nous allons parler du nouveau monde. Non, pas celui idyllique inventé par l'Occident, peuplé de Yel, de drag queen, de néo-bobos écolos, de walkers et de vagues MeToo. Mais je vais vous parler du nouveau monde des pays de l'Est, mené d'une main de fer, c'est le cas de le dire, par le triangle de fer.
Le triangle de fer.
Non, ce n'est pas le titre d'un nouveau film de KPDP, mais plutôt une alliance qui semble tout droit sortie d'un scénario de James Bond. La Chine, la Russie et l'Iran, après des années de rapprochement silencieux, sont depuis le début de la guerre en Ukraine ouvertement alignés sur la scène internationale contre un ennemi commun, l'Occident.
C'est-à-dire ?
Leur vision du monde est aussi colorée que leur idéologie. Oubliez le système de droit international et les droits de l'homme. Ces concepts sont pour eux aussi démodés que nos Nokia 3310. Ils souhaitent imposer une vision du monde remettant en cause le système de droit international d'après-guerre, à commencer par les droits de l'homme dont ils récusent l'universalisme. Concrètement, ils prônent une idéologie où droit de l'homme rime avec « on verra si on a le temps ». Ces trois régimes autocratiques ont une feuille de route commune, mettre fin à l'hégémonie occidentale et restaurer leurs zones d'influence respectives, particulièrement au Moyen-Orient, en Eurasie et en Asie du Sud. Chaque pays semble avoir un agenda où on le retrouve des événements historiques qui alimentent leur désir de revanche. La Russie, par exemple, n'a jamais vraiment digéré la chute de l'URSS. La Chine, elle, se remémore les humiliations des guerres de l'opium. Et l'Iran, eh bien, n'oublions pas la coup d'État de 1953. Bref, ils ont tous une bonne raison de vouloir se venger. Et tout le monde sait que la revanche est un plat qui se mange froid. Nos amis du triangle de fer l'ont pris au pied de la lettre.
Et ça donne quoi, justement ?
Eh bien, quand il s'agit de mener un combat, le triangle de fer ne fait pas dans la dentelle. Ils sont sur tous les fronts monétaires, militaires, technologiques et surtout informationnels. Ils menacent la stabilité mondiale comme un gamin de 4 ans menace la tranquillité d'un dimanche matin. Face à cette alliance, l'Occident semble avoir la réaction d'un élève surpris en train de tricher. Un mélange de panique, d'indignation, des sanctions par-ci, des communiqués officiels par-là. Mais au fond, une vraie question demeure. Comment répondre efficacement à cette alliance qui semble être aussi solide que du béton armé ?
Tu peux avoir des preuves du coup de cette alliance tripartite ?
Des preuves, y en a autant que des selfies sur les réseaux sociaux. Des partenariats économiques, des exercices militaires conjoints, des campagnes de désinformation et d'ingérence ou encore des poignées de main qui durent un peu trop longtemps pour être innocentes. Quant aux implications pour la sécurité mondiale, elles sont aussi claires qu'un ciel sans nuages. Les routes de la soie, l'élection de Trump ou la guerre en Ukraine par exemple. Cette alliance, si nous Européens ne faisons rien, pourrait redessiner la carte géopolitique avec la subtilité d'un enfant qui utilise du feutre sur un mur blanc. Voilà, chers auditeurs tristes, mon tour d'horizon d'un nouveau monde dont nous ne nous parlons jamais. C'est pour toutes ces raisons que nous devons soutenir l'Europe et aller voter le 9 juin.
Merci José-Louis Gibaud pour ce petit rappel de... J'ai dire administratif, mais c'est pas que administratif.
Allez, voter.
Petit rappel électoral, voilà. Merci beaucoup José Louis. La matinale, c'est terminé pour ce soir. Merci à nos invités d'avoir été au micro, ainsi qu'évidemment à nos amis de la table ronde. Merci à PR L'Hôtelier, merci à Akina Pied, merci à José Louis Gibaud à la table ronde et à la chronique. Merci à Fabrice Tiercy à l'animation du Zoom. Merci à Jeanne Thévenot à la réalisation de cette émission. Héloïse Robert, Inès Peiris et Lucas Courroy à la coordination de l'émission. On revient même heure et on parle. On revient demain même heure et on parlera de l'élection de Claudia Sheinbaum à la présidence du Mexique. Et d'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org et sur les applications de podcast à 20h. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris avec Pauline. Salut Pauline.
Salut Simon.
De quoi on parle ce soir?
On parle du coup des violences sexuelles avec Virginie Crécy, une journaliste et une enquêtrice de talent.
Et bien qu'on écoute dans un instant et qu'on aura curiosité à écouter. Merci beaucoup Pauline et à tout de suite. Très bonne soirée sur le 93.9 and rock the vote for Europe. Plus personne ne le dit, plus personne ne veut voter de toute façon. On s'en fout, on arrête.